Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode d'ABD Podcast et je reçois mon pote Reynald Choquet.
Salut Aurélien, ça
Bah,
va?
salut Reynald, merci de venir.
Ben avec plaisir.
Depuis le temps qu'on essaye d'organiser cet épisode, je suis vraiment content de t'avoir. Bon, ça fait des années que je connais Reynald, hein. C'est plus qu'un collègue, c'est un vrai pote professionnel que je connais depuis le volley. Tu te rappelles, on s'est rencontrés, tu étais préparateur physique de l'équipe de France féminine
Exact.
quand je suis arrivé à la direction de l'aide à la perf au volleyball, donc ça remonte déjà, ça remonte. Et puis beaucoup de points communs sur la vision de l'entraînement, sur l'engagement, sur la lecture de la performance. On est resté beaucoup en commun, en contact. On a notamment collaboré, d'ailleurs, t'étais le premier bêta lecteur de l'Art du 8, hein,
Exactement, l'un de tes
c'est
ouvrages,
premier, merci pour ça
oui.
encore. Et on partage un thème depuis quelques temps maintenant encore commun, celui du biohacking. Et je suis content que tu viennes parler de ça ici aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas le biohacking encore.
Ouais, c'est un nom anglais qui exprime un peu tous les outils naturels pour optimiser son potentiel, hein.
Alors moi j'aime bien résumer le biohacking comme bon là, vous êtes les plus jeunes d'entre vous êtes en trottinette électrique, mais nous on avait des scooters et même des mobylettes. Et ce qu'on faisait sur un scooter ou une mobylette, c'est qu'on la débridait, tu te rappelles? Hein? Un petit coup de tournevis bien placé dans une ou deux vis un peu ciblées, et en 3 secondes et demie, on prenait 20 km/h.
Exact.
Pour moi, le biohacking, c'est exactement ça. C'est libérer le potentiel du corps humain qui est sur plein d'aspects bridé, limité. Et donc, avant de partir dans des process d'entraînement complexes et longs et durs, et bien déjà, il y a tout un tas de fondamentaux à cocher, tout un tas d'éléments, des cases à cocher. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui.
Il y a les principes du vivant. On revient aux principes du vivant. Évidemment qu'on va parler de l'oxygène, on va parler de la respiration, mais on peut parler du magnétisme, on peut parler de la luminothérapie, on peut parler de beaucoup de domaines qui font que l'organisme, le fonctionnement, la cellule, comment elle fonctionne, les nutriments dont on a besoin pour justement respecter ces principes naturels de vie, du vivant. Et après, c'est comment on peut justement, voilà, pousser un peu les leviers pour accélérer naturellement justement ces mécanismes naturels.
Alors, à plus forte raison que notre mode de vie actuel et l'exposition qu'on a aux différents éléments est bouleversée par la technologie, par le confort, par les équipements qu'on peut avoir, en sport, par la façon dont on va pratiquer, par les sports que l'on va choisir. Tout ça va influencer finalement notre organisme et nos manières de fonctionner. Et puis, certaines fonctions du vivant sont altérées carrément par tout ça, et le fait simplement de retrouver leur potentiel originel, déjà va augmenter significativement les performances.
Oui, absolument. Et c'est vrai qu'on pense à une chose en priorité, c'est ce pouvoir de l'oxygène, ce pouvoir de la respiration. Quand je parle d'oxygène, on peut parler aussi de dioxyde de carbone,
Ouais.
évidemment.
Toute la biochimie de la respiration en général.
Exactement.
Ouais.
On est dans un environnement qui est ultra pollué. Alors, on va parler de stress, mais le stress, ce n'est pas simplement parce que je m'engueule avec quelqu'un dans une voiture à côté, c'est ce qu'on respire. C'est évidemment des pollutions mentales qu'on peut avoir, des pollutions olfactives, etc., etc. Et
La pression émotionnelle.
la pression, exactement. Donc on a des outils, et la respiration en est une ultra puissante. Clairement, je ne veux pas dire qu'on a sous-estimé avant, mais aujourd'hui, moi je trouve, on arrive dans une ère où on sait scientifiquement ce qui se passe véritablement sur des techniques ancestrales. Comment le corps va répondre à certaines techniques de respiration. Et je sais que tu pratiques beaucoup, moi aussi, et c'est clairement incroyable.
Mais bien sûr, les gens s'en rendent pas forcément compte. Alors, moi, je viens des arts martiaux, donc la respiration, au même titre que la mobilité, hein, qui est aussi sur la liste des outils de biohacking, qui permettent d'être plus puissants avant même de développer la force et la vitesse musculaire. La respiration, de la même manière, est développée un peu traditionnellement en arts martiaux, de manière extrêmement succincte et superficielle comparée à ce qu'on peut trouver chez les apnéistes, évidemment. Mais aussi dans les techniques, on parlait tout à l'heure off de Wim Hof, vous avez peut-être suivi, j'avais eu un invité sur le sujet qui est Léo Pelagotti, qui nous avait fait un topo assez précis sur le sujet, qui est un gros instructeur Wim Hof, mais aussi Oxygen Advantage. J'ai aussi reçu Lisa Traverso, deux Italiens, qui elle est plutôt de l'école Laird Hamilton.
Moi aussi.
Donc, tu as suivi aussi XPT.
J'ai suivi XPT. J'ai direction les États-Unis pour aller.
Ah, c'est sympa, il y a des palmiers au moins.
Ouais. Mais effectivement, moi, je suis un élève de Léo. Très, très curieux d'utiliser tous ces outils-là, de comprendre comment on pouvait sans... c'est un sujet qu'on avait juste avant, c'était de se dire, OK, on a des personnes qui peuvent s'entraîner, si on va vers le public qui est les sportifs de haut niveau, qui déjà s'entraînent beaucoup, c'est de se dire, OK, à un moment donné, c'est le corps, on le sollicite énormément, la biomécanique, on la sollicite énormément, la structure musculaire, on la sollicite énormément, c'est comment on peut encore gagner véritablement en faisant en sorte de ne pas dépenser outrageusement cette énergie qui est précieuse, d'ailleurs.
C'est ça. Tu mets le doigt sur deux trucs essentiels pour moi. Effectivement, l'impact métabolique d'un côté et puis l'impact mécanique de l'autre. C'est-à-dire que quand on entraîne des gens, c'est vrai évidemment pour des athlètes de très haut niveau, mais ça l'est aussi pour des gens qui sont par ailleurs extrêmement sollicités, extrêmement stressés par beaucoup de choses. Je veux dire, on a tous des familles, des emplois, des pressions, des responsabilités, des amis, des ennemis. Tout ça vient stresser énormément l'organisme. Et tout ce qu'on peut éviter de rajouter comme stress métabolique d'une part et mécanique d'autre part, eh ben, c'est précieux. Ouais. Et ce sont des raccourcis qu'on n'utilise pas des fois. Et du coup, pour se mettre minable, il faut forcément faire 200 burpees. Je schématise, mais c'est un petit peu comme ça que raisonnent beaucoup de gens. Alors même que des fois, en restant justement 110 pulsations minute et en faisant un travail d'hypercapnie sur un vélo, on se retrouve déjà à monter sur des lactatémies hors du commun.
Et les traces a posteriori sont complètement différentes.
Et les traces sont effectivement, puisqu'on travaille sur la biochimie du corps de manière très, très spécifique. Et comme tu me le disais en off tout à l'heure, on surestime énormément l'entraînement du système cardio-respiratoire lors du travail aérobie en endurance classique. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne travaille pas tant que ça, la mécanique et la biochimie à ce moment-là, comparé à ce qu'on peut faire sur des séquences de respiration. Et c'est là que intervient en fait le coup de tournevis dont je parlais tout à l'heure. C'est spectaculaire, c'est un accélérateur autant qu'un économiseur.
Ouais, c'est ça. Ouais, donc j'ai...
Ah non, hyper passionnant. Moi, tu sais que le plus mauvais de mes athlètes, il tient 2 minutes en apnée.
Ce qui est déjà une belle performance.
Ouais, et je pense que la plupart des gens disent « 2 minutes, j'y arriverai jamais » et tout. Ouais. Et sachez un truc, c'est que en fait, ce qui vous paraît là juste hallucinant et insurmontable est en fait extrêmement facile. C'est-à-dire qu'une fois que vous passez par évidemment les méthodes dont on a parlé, il faut en choisir une, elles se valent, elles ont des avantages, des inconvénients. Mais ça pourra faire l'objet d'un autre podcast. Mais en tout cas, toutes vont vous amener à performer hyper vite. En 2-3 séances de respi, on pète la minute 30 en claquant des doigts, d'accord.
Absolument.
Et sans souffrir, c'est important de le dire.
Absolument.
Sans souffrance, pas comme dans la piscine quand vous étiez gamin, où là, vous cherchez l'air, vous voulez sortir de là, et tout. Même sans ça, sans souffrance, on arrive à des perfs incroyables.
Ouais. Il y a des tests très simples qui permettent déjà de répondre à son questionnement de savoir est-ce que j'ai une capacité. Je vais faire un truc assez direct, mais est-ce que je suis en bonne santé? Alors, c'est pas le seul levier, évidemment, pour comprendre si on est en bonne santé, mais
au moins,
la respiration, c'est un indicateur. Et il y a un test qui s'appelle le test de Bolt, tu connais.
Bien sûr.
Voilà, qui est assez simple. Je peux l'expliquer, qui est assez simple. C'est on se met déjà dans une position, on se sent évidemment à l'aise, donc ça peut être assis, debout, allongé, on évite sur ce test-là. Et simplement, je vais respirer normalement, donc je vais inspirer, expirer. Je ne veux pas expirer poumon complètement vide. Donc, comme si j'allais reprendre une respiration, une inspiration. Donc, je me vide, j'expire, Et au moment où je veux reprendre, je bloque. Je pince mon nez, je bloque, je regarde le chrono, je mets un chrono et je regarde. Au moment où je commence à sentir des symptômes de vouloir reprendre ma respiration, le test s'arrête et normalement, l'indice subjectif que vous devez avoir, c'est quand lorsque vous reprenez une respiration, une inspi, du coup, puisqu'on était en expiration, on doit respirer normalement. Si on respire et je prends une grande, c'est qu'on a été trop loin dans le dans
l'apnée. On n'a pas été honnête.
Voilà, on n'a pas été honnête, on a retenu trop longtemps son apnée. Et là, allez, évidemment qu'il y a plein de, stades parce que vous allez regarder votre temps, vous allez arrêter. Si vous êtes entre 20 et 30 secondes, c'est que vous avez plutôt une bonne santé. Au-delà, c'est que vous avez une belle résistance au dioxyde de carbone aussi. Et en dessous, c'est qu'il y a certainement des problèmes respiratoires. Et là, justement, ça va demander de s'entraîner pour, parce qu'après, la respiration et l'oxygène, on en a partout, que ce soit des pieds jusqu'à la tête. Le cerveau, il fonctionne quand même avec l'oxygène aussi. Donc, si ça circule mal, si on n'arrive pas à le supporter, et l'oxygène et le dioxyde de carbone, c'est un vrai indice de mauvaise santé.
Et puis, plus globalement, du coup, un impact sur la récupération aussi. Je travaille beaucoup sur la récup en ce moment. Tu sais que je vais sortir sous peu ma nouvelle certification qui s'appelle Coach Récup. Évidemment, la respiration a une place énorme parce qu'en faisant ça, on influence la biochimie du corps et aussi le système nerveux autonome, qui est finalement pas si autonome que ça. On s'en rend compte grâce à des performeurs comme Wim Hof, en activant le système parasympathique, comme ça, tous les jours, simplement allongé dans son canapé ou dans son lit, on arrive déjà à produire de la récupération passive extrêmement efficace. Et qui ne nécessite pas d'appareillage coûteux, compliqué.
Exactement. C'est souvent l'argument que j'avance aussi. C'est qu'on est quand même sur des éléments naturels. Et,
tout est là.
Voilà, tout est là pour pouvoir. Il faut connaître les outils, il faut connaître les techniques. Après, on peut se former, évidemment, mais ça reste l'oxygène à 21%. On peut avoir dans l'air.
Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former. Parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion. Parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre, rapidement et à moindre coût temporel comme financier, de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, deux univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussel-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences.
Alors dans la trousse du biohacking, bon évidemment on pourrait parler des heures de la respi, on a déjà fait pas mal d'épisodes là-dessus, allez voir. Je vous l'ai dit, on va aussi en reparler largement dans mes certifications. Vous pouvez aussi suivre Rénal qui en parle très régulièrement sur les réseaux. Mais il y a d'autres choses. On peut parler aussi de la vision, par exemple. On peut parler aussi du système extéroceptif au sens large, d'ailleurs.
Ouais, c'est vrai. Alors, pourquoi on aborde ce sujet ? Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai une activité où la vision est centrale. Je manage un centre de la performance pour des e-sportifs. Donc, ça fait souvent sourire. On est souvent sollicité par les médias avec des questions, mais est-ce que ce n'est pas délétère, etc. etc. Moi, je suis arrivé dans ce milieu-là il y a 2 ans. Le e-sportif, je l'ai considéré évidemment comme un sportif de très haut niveau et je l'ai appréhendé de cette manière-là. Et c'était de se dire, OK, comment on peut biohacker, on peut optimiser sa performance. Soit il a une position entre guillemets sédentaire, parce que ça on pourra en reparler, parce que la posture aussi est quelque chose de fondamental. Et malgré le fait d'être assis, on n'est absolument pas dans une position passive. C'est-à-dire que si on se retrouve et qu'on est dans une position passive comme dans son canapé et qu'on est comme ça, on est en hypovigilance. Et donc jouer des heures, à un moment donné, on peut avoir ce relâchement. Donc, ça veut dire qu'il faut garder cette posture, il faut garder ce tonus, il faut garder cette acuité visuelle. Et la respiration fait partie, justement, de pouvoir travailler. Le renforcement musculaire fait partie. Donc, du coup, aujourd'hui, moi, j'ai construit un écosystème où on travaille sur différents facteurs de la performance. Et l'acuité et la vision en fait partie. Puisque aujourd'hui, et ça vaut pour tout le monde, mais eux, pour leur job, entre guillemets, c'est primordial, c'est que 70 à 80% des informations sensorielles sont visuelles. Donc si, pour des personnes qui ont besoin, et les sport co, c'est la même chose, les sport co, énormément de sports, quasiment tous les sports d'ailleurs, ont besoin d'informations visuelles. Si l'œil n'est pas performant, si l'œil a des problèmes ou des pathologies, ça va impacter directement, c'est déjà le premier step, va impacter ton traitement et ton action derrière.
Ton déclenchement.
Exactement. Donc il y a énormément de tests qui existent pour savoir si les deux yeux fonctionnent en même temps, si l'œil est capable de traquer et de s'arrêter net à l'endroit où on veut qu'il aille, ou alors s'il dépasse un peu pour revenir, s'il y a une binocularité qui n'est pas bonne. Voilà, c'est checké par... alors nous, on a chez Vitality, on est partenaire d'une grosse entreprise où on a un optométriste qui check les yeux des joueurs.
Parce qu'à la fin, ce sont des muscles. Hein, donc,
ce sont 6 muscles qui régissent les
mouvements oculaires. Tu les entraînes en excentrique, en statodynamique,
exactement.
En explosivité.
Absolument. Et il y a beaucoup d'outils. Hein.
Je pense à différents angles.
Aujourd'hui, c'est à différents angles. Et absolument.
Parce que plus que pour n'importe quelle articulation, si on pouvait imaginer cet organe, du coup, il faut être efficace. Les transferts de force sont spécifiques aux angles de travail.
Oui, absolument. Notre spécificité, c'est qu'on est proche de l'écran et que le champ périphérique est réduit. Sachant qu'on a, lorsque vous commencez à déplacer votre œil sur la droite ou la gauche, avec les deux yeux, on a un point mort, et puis après on retrouve, sans le voir net, mais on retrouve la perception de l'objet. Nous, on a un écran, on n'est pas très loin, il y a un écran, donc du coup, on ne va pas aller chercher des informations qui sont vraiment très très loin, à gauche et à droite. Mais c'est de voir justement quand même jusqu'où le joueur est capable de voir des informations.
Bien sûr. Et avec quelle précision et avec quelle...
C'est ça l'acuité, c'est cette netteté, cette profondeur, comment il a son œil. Alors, clairement, les joueurs que c'est comme... Tu coaches de l'athlète de haut niveau tous les jours. Moi, j'ai déjà entre mes mains des joueurs qui sont les meilleurs du monde. Donc, quand ils arrivent là, aujourd'hui, on sait qu'il y a peu de choses qui sont... Il y a peu de problèmes.
Ouais.
Parce que sinon, ils ne seraient pas à ce niveau-là. Justement, ça serait vraiment des limites à leur performance.
Bien sûr.
Mais ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Et de continuer à entraîner. Et d'utiliser ces exercices qui, pour faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure, sont justement des exercices qui ne sont pas si impactants d'un point de vue métabolique. Pas tous, certains. On sait qu'il y a du travail sur l'équilibre, la proprio, etc. Et qui peuvent aussi demander des ressources de concentration qui épuisent.
Mmh.
Et c'est très ludique. Voilà, on met des exercices en place sur les yeux, mais après on travaille sur cette perception, on va évidemment après sur de la vitesse de réaction, de la vitesse gestuelle aussi, et on joue avec eux parce que le jeu est le meilleur moyen d'une de mémoriser et de s'engager dans l'activité. Mmh.
Alors évidemment, on prend l'exemple extrême du gaming, hein, ça pourrait être du tir de vitesse ou... Voilà, pour lesquels c'est vraiment évident. Mais vous imaginez bien que mettre ce petit coup de tournevis encore dans la mobilette pour des joueurs de sport co, pour certains sports de combat, pour cette acuité-là, on en parle d'ailleurs hein, en boxe anglaise, on parle du coup d'œil. Évidemment que ça renvoie à plein de choses. Et à plus forte raison de l'expertise technique spécifique, de la lecture du combat, etc. Mais n'empêche que ça renvoie à cette vitesse et cette acuité... et cette aptitude à justement...
Je vais peut-être me faire des ennemis, mais on peut être fort, on peut être rapide, on peut donc du coup être puissant, mais si on voit l'information trop tard, ou si l'adversaire la voit avant nous, soit il va éviter, soit il va frapper avant, ouais. Si on est un sport de combat. Et donc, même s'il frappe moins fort, mais qu'il frappe 20 fois et qu'il en a pris que 2, et que lui, pendant 20 fois, alors bien sûr, s'il en prend, s'il en prend juste une, si c'est Mike Tyson, enfin, une, ça peut suffire, mais vous comprenez bien le rapport. C'est-à-dire que je vois mieux, je vois plus vite, je comprends avec l'histoire et l'expérience des scénarios, je comprends ce qui va se passer. C'est quand même
j'ai peut-être besoin d'être moins fort. Bah, oui, c'est ça.
Tellement puissant.
Ouais. Vraiment important. Voilà. Tu parlais de la posture tout à l'heure.
Oui.
Oui. Essentiel aussi. C'est vrai que
quand je fais des exercices sur le, alors c'est amusant parce que je les laisse d'abord un petit peu faire et après je leur donne des petits tips. Donc très simplement, on travaille avec différents systèmes de lumière comme que ce soit BlazePod ou les FitLight. C'est les deux marques un peu phares aujourd'hui sur le marché. Mais
et on se retrouve. Ça tombe bien, j'en connais pas d'autres. J'en connais que deux.
Il y en a une troisième qui est sortie, je sais plus le nom, okay. Mais j'en ai vu une. Et du coup, j'ai mes lumières au mur et ils arrivent. Et certains, il n'y a même pas un quart de seconde, tac, ils mettent les mains déjà dessus. Ils sont un peu comme ça, presque bassin en rétroversion et un peu comme ça, les épaules basses, tac, tac. Je dis, c'est pas possible, c'est pas possible. On conditionne le corps, on le met dans une posture pour qu'il soit en alerte totale et qu'il soit prêt à faire des mouvements. Et c'est la même chose sur une chaise, même s'il a son clavier, sa souris, il est là, il est en pleine conscience de ce qu'il fait. Et en pleine conscience, le corps, il est prêt à agir. Devant une barre d'haltéro, on se prépare. C'est pas, j'arrive tout de suite et je soulève ma barre. Ok, on est d'accord.
Donc
c'est un vrai point commun pour n'importe quelle activité d'ailleurs. Donc c'est de la vraie pleine conscience. Et sur leur chaise, je leur explique hein, justement leur fauteuil. Je leur explique que pour garder cette vigilance, voilà, on va travailler aussi sur cette posture, sur ces muscles profonds qu'on connaît par cœur, qu'on travaille depuis longtemps, mais ce transverse, tous les muscles qui vont permettre de tenir cette hyper-vigilance, parce qu'eux, ils sont sur des sprints aussi de 1 minute 30, où ça va vite, où ils sont en sollicitation assez exponentielle. Ça vient de partout et il va falloir qu'ils traitent. Alors, on sait comment ça se passe entre l'amateur et le e-sportif ou le sportif de très haut niveau. C'est-à-dire que lui, déjà, il a déjà filtré naturellement, il lui reste plus beaucoup de possibilités, il va choisir sa réponse. N'empêche que d'être dans cette posture, d'être prêt à faire, ça change tout.
C'est vraiment la question d'attitude. Hein.
Ouais.
Et c'est ça aussi, c'est transversal à tous les sports, au fond, parce que quand en sport de combat, tu es voûté, tu es passif, tu reçois, tu subis.
Ce qui se passe, j'ai une appétence vraiment pour la boxe anglaise, j'aime beaucoup ça. Et tu regardes des combats, j'ai encore regardé le dernier combat de Wilder là, avec Fury, et la fatigue engendre ça, évidemment. On reste des animaux et il y a de la fatigue qui arrive. Mais le moment où tu as une petite perte de vigilance et que l'adversaire en profite, cette petite fenêtre, c'est là qu'il se passe souvent le chaos ou la fin du match.
Alors, c'est drôle que tu travailles du coup avec les lumières, puisque ça, c'est quelque chose que j'utilise aussi beaucoup, tu t'en doutes, en sport auto. Et d'ailleurs, je fais un petit retour en arrière sur notre affaire de prise d'information et à quel point ça peut influencer la performance finale, parce que les gens ne se rendent peut-être pas compte. Ah, ben, ça va, un dixième de millième de seconde comparé après à tout le mouvement où l'explosif va rattraper ou reprendre le dessus, etc. Eh bien, croyez pas ça, parce qu'un jour, j'ai mis aux prises deux athlètes de très très haut niveau. Hein. Loïc Corval en judo, qui est loin d'être le moins explosif de la catégorie. Hein. Donc, Loïc Corval, médaillé mondial, un pétard à réaction incroyable. C'est sans doute un des mecs les plus explosifs du circuit à ce moment-là. Et en face de lui, Norman Natto, donc pilote qui a fait deuxième au 24 Heures du Mans. Qui fait de la formule I aussi, Loïc s'en rappelle encore. C'était la déculottée totale. Hein. Désolé Loïc, je le dis à tout le monde, mais bon, tu l'aurais battu si on avait fait un bras de fer. La preuve en est que voilà, quand on en vient à de l'acuité pure et de la vitesse de la captation d'informations visuelles, il peut sauter, exploser, se jeter, lancer les bras 10 fois plus vite. C'est trop tard, il est battu, il a perdu tellement de temps au démarrage. Tellement de temps au démarrage. Imaginez en volleyball, tu l'as forcément appliqué au volley pendant des années. Sur la trajectoire des ballons, sur la lecture du jeu, sur la prise d'information périphérique, c'est, mettez ce coup de tournevis dans, dans la bécane.
Nous, c'est très direct hein, dans le e-sport, c'est-à-dire qu'on a, on peut avoir deux joueurs qui se retrouvent face à face avec l'adversaire et c'est au clic de la souris, c'est au, à la touche avec le doigt et la balle qui part avant l'autre, mais ça se joue sur un, évidemment sur un millième de seconde.
Dans le biohacking, tu parles justement de la touche. Ben, on a ça aussi. On a développé les capteurs sensoriels et les stimuler de manière inhabituelle. Tu t'en sers un petit peu de tout ça. On parlait de proprioception tout à l'heure en off, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout le tactile qui est...
Il y a un vrai axe oculopodal. Donc du coup, moi, je travaille évidemment... J'y vais step by step parce qu'on est sur une population qui découvre le haut niveau, qui découvre tous les outils autour qui sont là pour optimiser. Donc le e-sport économiquement et c'est exponentiel aujourd'hui. C'est un milieu qui est en train d'exploser sur la planète. Maintenant le joueur, sa culture. La culture des e-sportifs, ça met plus de temps, c'est normal. L'humain, il a besoin de digérer les choses. Donc déjà, d'apprendre à s'entraîner, c'est déjà un vrai levier. Et c'est ce qui se passe normalement dans les autres sports quand on est dans des centres de formation. On apprend déjà à s'entraîner et puis après, on va aller chercher. Et donc du coup, moi, je sais que je mets des protocoles d'échauffement où j'intègre, on en parlait tout à l'heure, j'intègre de la respiration. Je commence toujours par de la cohérence cardiaque. Je les remets dans la séance avec moi. Voilà, on se prépare. On a des tests, on a un petit protocole sur les yeux aussi, où je t'en parlais sur le réflexe vestibulo-oculaire. On travaille sur un peu de neuro, mais de l'agilité avec les doigts. C'est un test de piano, on pianote, etc. Je mets de la mobilité. Et après, je travaille aussi sur des équilibres, des single deadlift à vide, avec des différentes positions après pour qu'ils se retrouvent un petit peu plus en déséquilibre, yeux ouverts, yeux fermés, etc. Donc oui, je mets tout le corps en mouvement, même si on reste derrière sur une position assise, parce que un corps en bonne santé, ça donne une tête en bonne santé, une tête en bonne santé, ça va donner un corps en bonne santé. Et moi, je leur explique souvent aussi sur le fait de pourquoi j'intègre, par exemple, un travail aussi cardio. C'est qu'à un moment donné, cette résistance, cette capacité de régénérer, de récupérer, elle est aussi importante et c'est quand même le cœur qui va être la pompe, qui va amener l'oxygène, etc. Donc, tout a un sens, même si on est sur une position assise. Donc oui, les équilibres, enfin tout ce qui est équilibre, je l'intègre dans mes warm-up.
Je vois un dernier, bon, il y en a plein, hein, mais bon, on n'a qu'une petite demi-heure ensemble. Il y a un dernier thème qu'on pourra aborder dans le biohacking, c'est quand même celui du stress thermique. Donc, j'allais dire le froid, mais pas que le froid, en fait, le chaud aussi.
Ouais, bien sûr.
Je sais que tu t'en sers. Je te pose la question pour la rhétorique. Est-ce que tu t'en sers ?
Personnellement. Oui, personnellement. Alors, un peu moins en ce moment. Compliqué, là, Ouais, je pratique moins aujourd'hui. Je pratique, j'ai mes douches, mais bon, on n'est pas sûr. Mais c'est pas grave, ça, il y a quand même des effets. Mais c'est vrai que l'occasion d'être sur des températures très basses.
3 minutes de douche froide par jour, c'est un impact fort sur le métabolisme. Ouais, et c'est déjà du
même à 8 degrés, il se passe des choses.
Déjà un énorme immunoboost, évident.
Exactement. C'est ça. Oui, je l'intègre plus dans ma vie qu'aujourd'hui. J'aimerais l'intégrer un peu plus, mais bon, ça, c'est, on est sur des outils.
Nous, on reçoit les bains cryo-contrôle la semaine prochaine à FitStation. Donc
c'est à tester.
Donc, les bains froids, oui, je les utilise régulièrement. Mais là, du coup, on va les intégrer de manière beaucoup plus régulière pour les athlètes dans les protocoles, c'est clair.
Bon, tant mieux.
Donc, bain froid, ouais, tu les pratiques toi, surtout moi, personnellement. Tu mets pas encore les athlètes dedans et...
Non, on n'a pas tout. Nous, on est situé au Stade de France. On n'a pas ces outils-là à disposition. Et du coup, bon, on s'adapte. On est plus sur... Moi, j'ai trois leviers fondamentaux dans le développement de la performance. Il y a ce côté, je suis sur des positions assises, donc on remet du déplacement, du mouvement dans les trois plans. Et on refait travailler les articulations dans toutes les possibilités qu'elles ont. On fait un travail aussi assez prophylaxique sur... parce qu'on peut avoir à force de jouer, tu peux avoir des notions d'enroulement, tu peux avoir des petites pathologies au niveau poignet, coude, épaule, etc. Donc, on travaille aussi sur ces choses-là, sur du renforcement. Et puis après, évidemment, il y a tout l'aspect qui est hyper ludique et les joueurs, ils adhèrent à 100%. C'est tout le neurotraining. C'est tout ce travail qu'on a un petit peu survolé tout à l'heure avec les lumières, avec tout ce qui est dans le perceptif. Voilà, et dans la réponse.
Ça fait particulièrement sens chez eux.
Ouais, et l'idée, et moi je m'en amuse évidemment, c'est d'aller chercher des exercices qui permettent de solliciter à maximum une grande capacité qu'a le cerveau, c'est sa plasticité. C'est de mettre un stimuli, mais d'en rajouter un deuxième, d'en rajouter un troisième, et de voir jusqu'à quel moment le cerveau il est capable d'emmagasiner, de répondre assez vite, ou si ça bug complètement et du coup on revient en arrière. Et c'est des sujets que j'ai avec eux parce que. On met des exercices en place, je peux mettre par exemple les lumières, et puis je vais dire, ok, les lumières rouges, ça va être main droite, les lumières bleues, ça va être main gauche. Donc voilà, donc déjà ça ralentit, parce qu'évidemment, là on est déjà sur de l'inhibition. À un moment donné, il va falloir répondre différemment, et il y a un traitement. Mais en même temps, je peux aussi poser des questions et demander des additions. Donc en même temps, hop, 3 plus 2, etc., etc. Donc là, on va favoriser vraiment, et l'idée c'est que lorsque ça bug aussi, ça c'est un des paramètres que j'en discute beaucoup avec eux, parce que c'est des choses qu'on retrouve moins dans le sport tradi, mais qu'on peut retrouver beaucoup qu'on retrouve dans l'e-sport, c'est une action se passe mal, ou une communication se passe mal, merde, et pendant les plusieurs secondes qui suivent, il ne se passe plus rien, sauf que le jeu continue. Donc l'idée c'est de faire en sorte que le cerveau ne bug pas trop longtemps. Ok, ça vient de se passer, c'est terminé, on est tout de suite dans l'action. On en parlera à la fin de la partie si tu veux. Et donc, quand ça bug comme ça, j'aime bien que les joueurs, tout de suite, même s'ils se trompent, reprends ton fil. Ouais. Et ce réflexe fait en sorte que ton cerveau ait cette réponse le plus vite possible.
Je fais toujours le lien avec les autres disciplines, mais en volley, on le voit de manière collective. En tennis, on voit un mec qui disparaît pendant tout un set.
Oui.
C'est typiquement ce que tu décris là, c'est qu'il n'arrive pas à remobiliser, il reste en boucle sur son process d'échec moteur, d'échec cognitif, d'échec structurel et
fonctionnel, émotionnel.
Mmh. Et il met un set à ressortir la tête de l'eau et à remettre le truc à zéro en volet. On le voit carrément collectivement. Des fois, on se retrouve avec six patates sur le terrain, complet, qui ne savent plus où c'est le Walking Dead d'un seul coup. Et là, tu as tout un set qui défile et il n'y en a pas un pour remonter. Et c'est vrai que quand tu as entraîné les gens dans cette dynamique-là, ça transcende des problématiques qu'on pense des fois métaboliques ou purement énergétiques. Et en fait,
On est à la limite, on est sur le plan aussi mindset, prépa mental. C'est-à-dire que
forcément, c'est le moment où ça se rassemble.
Voilà, c'est ça. C'est de faire comprendre aux joueurs, d'intégrer que... Alors moi, je tiens ce discours-là à ce public, mais c'est... La perfection n'existe pas. D'ailleurs, le perfectionnisme est quelque chose à repousser le plus possible. En revanche, l'idée de faire du mieux possible à chaque instant, c'est autre chose. Et d'être déterminé pour ça, c'est bien autre chose. Et c'est de se dire, OK, j'ai fini, mais j'en ferai peut-être d'autres. Je vais essayer de ne pas en faire, évidemment. Et tout de suite, je suis reparti dans le game. Je ne laisse pas la place à quelque chose qui va me retarder ou qui va me terminer. Alors que... On le sait, au volley, très bien, au tennis, très bien, c'est que tant que le dernier point n'est pas marqué, le match n'est pas terminé. Il peut se passer tellement de choses.
Bien sûr.
C'est toute la beauté du sport, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on aime ça aussi. Hein. Des revirements de situation qui sont assez dingues. Mais ça existe. Enfin, je veux dire, voilà.
Ça existe et ça s'entraîne.
Et ça, voilà.
Bon, super. Écoute, c'était vraiment passionnant. Merci d'être venu. J'espère que ça vous a autant passionné que moi. C'est, en tout cas, je pense, essentiel de faire cet épisode-là sur le biohacking. C'est essentiel aussi qu'on en refasse un sur le e-sport.
Avec plaisir. Hein,
tu reviendras nous parler de ça. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, Reynald est particulièrement actif sur les réseaux. D'abord, il a un compte Instagram qui est assez dense.
Je mets des informations, ouais.
Coachray.fr. C'est important de le dire, coachray.fr. et puis par ailleurs, tu as un rendez-vous sur Twitch.
J'ai un rendez-vous sur Twitch qui est le moyen que les gamers utilisent énormément, mais c'est ouvert à tout le monde et c'est en train vraiment de se démocratiser. Et donc, je donne des séances en live, donc je m'entraîne aussi, je me mets aussi comme il faut, voilà. Tous les mercredis soirs à 18h. Alors, parfois ça bouge, mais sur Insta, je donne à chaque fois l'information 24h ou 48h avant. Et en général, c'est le mercredi à 18h, voilà. On a une vraie sens de,
super,
de prépa
venir,
physique.
On va venir voir ça, on va venir participer. En tout cas, à bientôt, vraiment merci d'être venu. Vous nous avez suivis sur toutes les plateformes de streaming. Peut-être que vous nous avez regardé sur mon site ou sur YouTube. En tous les cas, si vous avez soif d'apprendre, que vous en voulez plus encore, je suis chez mon partenaire digitalisation Transfert qui vous propose la formation 3PS. Vous la connaissez désormais, c'est un incontournable de la formation en préparation physique, en récupération et en nutrition du sport. Et puis, évidemment, toutes mes formations en ligne vous attendent. N'hésitez pas à partager et à commenter pour nous soutenir au maximum. Je vous remercie de votre fidélité. À très bientôt, Rénal. Tu reviens quand tu veux.
Merci, Aurélien.
C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.